Et c'est le débat éco du vendredi, 7h46. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, Dominique, en studio et en vrai, comme disent les enfants, pour un débat consacré aujourd'hui aux nouvelles décisions prises par Emmanuel Macron et le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid. Le gouvernement, en tout cas, c'est la critique, l'une des critiques qui lui est adressée, a donné l'impression de tout faire pour maintenir la vie économique au détriment, point d'interrogation, vous nous le direz, de la vie sociale et notamment culturelle dont les acteurs vivent très mal le tour de vis imposé par le couvre-feu. Vie économique, vie sociale, l'équilibre est-il le bon ? On va commencer avec vous, Dominique. Un autre était-il possible ? Qu'en pensez-vous ?
D'abord, première remarque, la vie culturelle, c'est aussi de la vie économique. Hein. Les acteurs de la culture sont aussi des acteurs économiques. Est-ce que l'équilibre est bon ? Je crois que personne en réalité le sait vraiment. Et d'abord, ça nous incite tous quand même, y compris les gens qui suivent l'économie, à beaucoup de modestie. Le gouvernement a toujours eu plutôt une semaine de retard sur les questions sanitaires. Et on espère que ce ne sera pas le cas encore aujourd'hui. On ne sait pas très bien si les mesures vont suffire. Donc ce qui est absolument certain, c'est que sur le plan économique, les conséquences vont être importantes. C'est-à-dire que les schémas que nous avions depuis un mois sur la croissance telle qu'elle va être d'ici la fin de l'année, je pense qu'on peut en partie les mettre à la poubelle. Sur le plan sanitaire, l'équilibre, c'est pas entre le culturel et le reste de l'économie, c'est entre le sanitaire, ce qu'il faut faire, et ce qui est possible. J'ai regardé hier soir le chiffre. 130 000 Français ont été hospitalisés pour cette affaire-là depuis le début. 130 000 Français. Donc c'est vraiment une affaire sérieuse. Est-ce que arrêter les activités, en partie le soir, c'est la moins mauvaise des solutions ? Je crois que oui, pour répondre directement à votre question. Pourquoi ? Parce que on diminue les contacts au moment de la journée où ça a le moins d'impact collectif et économique. Mais après, c'est une question de fine-tuning, comme on dit.
De réglage fin,
voilà. Mais je pense que c'est la moins mauvaise des solutions. Je ne suis pas certain néanmoins qu'on s'arrêtera à 21h.
La moins mauvaise des solutions, Thomas Piketty ?
Il y a des choix qui sont faits entre différents types d'activités. C'est-à-dire, il y a des activités qui vont continuer, des activités de bureau, y compris avec des réunions, alors avec des masques, avec des distances, mais qui vont continuer de se dérouler. Et puis, vous avez d'autres activités culturelles dans un cinéma, dans un théâtre, où les gens peuvent être espacés, où les gens ne bougent pas, a priori, et qui, elles, vont être interdites. Je pense aussi aux jeunes, aux étudiants, qui déjà, pour beaucoup, sont complètement, font tous leurs cours à distance, passent leur journée à la maison après avoir passé 6 mois à la maison, qui là le soir donc vont être aussi à la maison, pour beaucoup tout seuls. Il n'y a pas de mesure qui a été faite sur les jeunes, notamment financièrement. Beaucoup qui ont perdu leur petit boulot, leur travail. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits, et moi ce qui m'embête le plus, c'est que ces choix, voilà, ils sont tranchés d'en haut. Ça manque de délibération démocratique, et moi je pense qu'on devrait avoir sur des questions pareilles un vote au Parlement, différentes options. Est-ce que, par exemple, on peut se poser la question de est-ce qu'il faudrait pas protéger davantage les plus fragiles, quitte à imaginer des situations où pour aller voir les plus fragiles et les plus âgés, il y a des systèmes de tests obligatoires qui se mettent en place. Est-ce qu'en tout cas, moi je suis pas spécialiste pour dire c'est ça la solution, ne pas avoir cette discussion
et ne pas un manque de débat démocratique.
Je pense qu'on a besoin que ces différentes options. Et je pense qu'on va finir par y arriver. On a besoin que ces différentes options soient posées sur la table, soient expertisées, que les responsables politiques puissent se prononcer, qu'on ait un débat au grand jour. Et là, ça manque vraiment.
Parce que c'est vertical, c'est vrai, Dominique.
Non, mais bien sûr, et je crois quand même qu'il y a un débat qui est programmé la semaine prochaine. Mais
après les décisions.
Après les décisions, c'est regrettable. Et évidemment, vous êtes sur du velours en disant qu'il faut un débat. Ça ne mange pas de pain. Et vous avez raison de dire qu'il faut un débat. On est tous d'accord là-dessus.
J'essaie de montrer qu'il y a plusieurs options.
On a déjà eu l'occasion de dire ensemble ici que on aimerait qu'il y ait davantage de partage sur les schémas épidémiologiques, les scénarios, et c'est vrai qu'une fois de plus, on ne les a pas encore vus. Encore faut-il que, j'allais dire, les oppositions soient à la hauteur du sujet. Il me semble avoir vu quand même un tweet de Jean-Luc Mélenchon expliquant, en se trompant totalement sur les chiffres, que la majorité des contaminations avaient lieu en entreprise et dans les transports.
C'était les chiffres sur les clusters, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ils confondaient les clusters.
Chiffres, oui, mais je crois que ce sont les seuls chiffres pour lesquels on peut répartir les activités.
Parce qu'il n'y en a pas tellement d'autres.
Oui, donc, mais ça, on peut difficilement reprocher. Oui, si ce sont les chiffres qu'il y a, moi, je ne vais pas prendre position là-dessus. Je constate juste que, apparemment, ce sont les seuls chiffres qu'on a, c'est sur l'origine des clusters.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation.
On peut bien imaginer, moi, à vrai dire, dans ce chiffre-là, ce qui avait été cité par Mélenchon, ce qui m'étonnait même, c'était qu'il y ait jusqu'à 40% de contamination le soir. Ça me paraît beaucoup, c'est étonnant. Enfin, qu'il y ait au moins 60% à jouer. Enfin, tout ça n'est pas très étonnant.
Mais sur l'équilibre, il y a un point, moi, sur lequel j'avoue que j'ai une incertitude, c'est l'histoire du télétravail. Je pensais, en attendant la prise de parole d'Emmanuel Macron, qu'il mettrait plus l'accent sur le télétravail. Les entreprises font beaucoup. C'est déjà, elles se sont organisées et je dis chapeau, bravo aux entreprises pour tout le boulot qu'elles font, chapeau aux DRH, etc. Bon, ok. Je pense quand même qu'un pas de plus aurait pu être franchi. Une étude de l'ANDRH, c'est les DRH, Direction des Ressources Humaines, dit que 15% seulement des salariés en France aujourd'hui sont en télétravail. Il me semble que quand il y a des contaminations dans les transports, ça me semble insuffisant. J'ai l'impression, enfin plutôt je le sais, que les milieux économiques, comme on dit, ne sont pas le pied sur le frein, mais ont plutôt dit attention, n'allons pas trop loin, à 100%, ne revenons pas à un 100% obligatoire télétravail. Les deux, on pouvait modifier un petit peu les curseurs et faire un peu plus de télétravail.
Thomas Piketty, sur le télétravail.
Oui, je pense qu'aussi sur les transports et sur l'absence de mesures sur les heures de pointe dans les transports qui existaient avant l'été, je pense que là, ça, c'est pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles c'est pas très audible, c'est pas très compréhensible. Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même d'autres options consistant à mettre davantage en sécurité les plus fragiles, parce qu'on est quand même face à une maladie qui est très dangereuse pour les plus âgés, pour les personnes qui souffrent d'un certain nombre de comorbidités. Et donc, est-ce que les mesures qu'on prend là sont suffisantes pour les protéger? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à des mesures qui soient davantage centrées sur l'isolement des plus fragiles?
En gros, vous nous dites qu'il faudrait un permis de sortir de chez soi pour les plus de 65 ans. C'est ça que vous dites?
Vous savez, on n'est pas très loin d'avoir un permis de sortir de chez soi pour toute la population. Donc, à un moment...
À partir de 9h du soir. C'est ça la grande question sur les libertés.
Pour l'instant, Dominique, pour l'instant. Et donc, et je vous dis, pour beaucoup de personnes actuellement, des jeunes étudiants font tous leurs cours à distance, le soir sont coincés, donc en fait sont quasiment en confinement.
Alors une question, poursuivons Dominique, ce que vous disiez tout à l'heure sur les conséquences économiques, le coût économique. On ne parle pas seulement des restaurants, des cinémas ou des théâtres, mais aussi de l'économie en général, de la consommation. On dit toujours que l'économie n'aime pas la défiance, l'incertitude... On y est, à nouveau, là.
On y est. C'est-à-dire que le scénario qui était écrit jusqu'à maintenant, c'est après une chute très profonde au premier semestre, il y a eu un rebond cet été qui a été très puissant, de l'économie, c'est vrai, et l'INSEE et la Banque de France nous disaient « Bon, d'ici la fin de l'année, ce sera plat, zéro ». C'était déjà pas une très bonne nouvelle et l'activité économique devait se finir à la fin de l'année à 95% du rythme normal. Là, on voit bien qu'on est en train de changer complètement de monde et on va probablement avoir une récession au quatrième trimestre. Parce que je ne vois pas très bien comment, avec l'incertitude, le retour, allez, on va dire les mots, de la peur dans l'économie et dans le tissu social dans son ensemble, on n'est pas une économie qui ralentisse. Et donc, ça veut dire... Hélas, que sur l'emploi, il y a beaucoup de questions. Donc, le quoi qu'il en coûte est encore d'actualité.
Il y a beaucoup de questions et je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure inégalitaire de la crise qui se déroule. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui étaient en situation précaire face au marché du travail, il y a eu une précarisation considérable et l'absence de mesures, en particulier sur tous les jeunes en dessous de 25 ans, donc il y a un refus complet d'extension du RSA, mais simplement d'aide de façon générale aux personnes qui déjà avaient des petits salaires et qui ont été privées de ces petits salaires. Je veux juste rappeler quand même un chiffre, c'est qu'aux États-Unis, pourtant pays libéral, on a versé 2 400 $ par mois à toutes les personnes privées d'emploi, sans condition, pendant 6 mois, de mars à septembre. Alors ça n'a pas été renouvelé en septembre, parce que Trump, etc., on connaît l'histoire, ne voulait pas renouveler, mais enfin quand même pendant 6 mois, là la mesure qui est évoquée, c'est pour un mois au mois de novembre, 150 euros, pour les titulaires de l'ESA. Donc juste pour situer les choses, je pense qu'on ne prend pas la mesure, et ce gouvernement continue sur son agenda de baisse d'impôts pour les entreprises, sans du tout chercher à voir si les personnes qui vont en bénéficier sont des petites ou moyennes entreprises ou des personnes déjà très à l'aise, sans aucun ciblage. Et je pense qu'il se ferait mieux. Il va falloir qu'il s'intéresse aux plus précaires. Et je veux dire, il y a des revendications. Le Secours catholique, vous savez, depuis longtemps, nous dit 550 € par mois le RSA. Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Et le Secours catholique demande que le RSA soit porté à 890 € progressivement. Et je pense qu'on pourrait, dans un pays comme la France, revoir l'éventail des salaires, l'éventail des revenus pour arriver à ça. Là, le président nous a quand même dit l'autre soir, écoutez, si jamais on les augmente à 650 €, ils vont être tellement à l'aise qu'après, on ne pourra plus les réduire, ils vont pas accepter de se remettre à travailler. C'était quand même vraiment très choquant. Je veux dire, je pense que là, ils ne se rendent pas compte.
Dominique Seux.
Il y a un sujet que vous abordez sur l'augmentation du RSA d'une manière générale en France, mais les titulaires et les bénéficiaires du RSA en ce moment n'ont pas perdu un centime.
Ben si, tous ceux qui avaient des petits salaires les ont perdus.
Mais ceux qui étaient titulaires,
mais ils avaient les dons intents, vous savez,
ceux qui étaient bénéficiaires du RSA, RSA n'a pas disparu du jour au lendemain. Non. Et heureusement, évidemment, il a été gelé.
Mais ils ont perdu les 200 ou 300 euros de salaire qu'ils avaient.
Il a été gelé.
Vous comprenez, Dominique Seux.
Mais attendez, la question, c'est ceux qui effectivement ont perdu un emploi et qui mettent du temps, par exemple, à rentrer dans le système du RSA ou qui avaient des revenus supérieurs au moment du basculement qui ne leur donnent pas aujourd'hui droit au RSA.
Non, chez eux, Dominique, vous faites une erreur. C'est aussi tous ceux qui avaient 200, 300, 400 euros de salaire et qui avaient un complément de RSA qui ont perdu les 200, 300, 400 euros de salaire et qui, en fait, la légère augmentation de RSA ne compense absolument pas cette perte de salaire et donc qui se retrouvent face à un choc qui, vraiment, n'est pas de leur fait. Hein. C'est pas que les gens ont décidé, tiens, je vais être paresseux, je vais perdre mon emploi. Donc là, il y aurait dû avoir des mesures beaucoup plus fortes de compensation de revenus pour toutes ces personnes. Les jeunes, eux, ils n'ont rien du tout, puis ils n'ont pas droit au RSA. Donc tous les jeunes qui avaient des petits boulots, eux, sont à zéro. Là, il n'y a aucune mesure. Donc là, je pense que le gouvernement va être obligé de bouger très vite sur ces questions.
Est-ce qu'il aurait fallu aller peut-être un peu plus loin sur le fameux coup de pouce qui a été donné de 150 €? C'est vrai que ça paraît quand même assez faible. Est-ce qu'il faut augmenter de manière pérenne le RSA, maintenant, rentrer dans ce débat-là, ça me paraît de mériter au moins débat. Je ne suis pas tout à fait certain. La France ne fait pas complètement, mais évidemment, là encore, vous jouez sur du velours, évidemment, parce que j'arrive en expliquant qu'il faut faire attention aux comptes publics. Alors vous êtes bien gentil et vous nous dites non, il n'y a pas grand-chose
aux États-Unis, tout le monde a eu 2 400 $ par mois. C'est quand même assez concret comme remarque. Donc, si vous voulez.
Mais France, il y a déjà 10 milliards d'euros pour le RSA.
Oui, mais c'est 550 € par mois.
Pour une personne seule, 1200 €, 150 peut-être pour une famille avec 2 enfants.
Aux États-Unis, c'était aussi pour une personne seule. Hein, donc je compare les choses comparables.
Ce que je dis, c'est que les filets sociaux français, on peut toujours le compléter, mais c'est déjà 10 milliards pour le RSA et pour
la prime d'activité. Oui, c'est un pognon dingue, comme dirait l'autre, mais néanmoins, on peut faire mieux.
Donc on peut pas dire que rien n'est fait. Le point sur lequel on peut être d'accord en conclusion, parce que de temps en temps, moi, j'essaie de trouver des points d'accord, mais rarement Thomas Piketty ne dit.
Et c'est en général au moment où il faut s'arrêter. Alors allez-y, Dominique.
C'est sur les étudiants qui ont perdu les centaines de milliers de jobs, justement le soir. Là, ils se retrouvent sur le carreau. Et ça, c'est un problème.
Merci, messieurs. Merci, Dominique Seux. Merci, Thomas Piketty. Le titre de votre dernier livre, Thomas Piketty, aux éditions du Seuil, Vivement le socialisme, !, recueil de vos chroniques entre 2016 et 2020. Merci à tous les deux encore.